15 jours s'étaient encore passés dans les détours et les faux fuyants. Mademoiselle en était excédée, tout en comprenant qu'un cadet de Gascogne ne pouvait pas lui dire « Prenez-moi ». Il était si peu dans son caractère de jouer au plus fin qu'elle trouvait les manières de Monsieur de Lauzun extraordinaires. Lauzun était trop compliqué pour une personne qui l'était si peu. La Bruyère lui-même allait renoncer à le pénétrer et l'avouer dans le passage où il le peint sous le nom de Straton. Caractère équivoque, mêlé, enveloppé, une énigme, une question presque indécise. Persuadé qu'il ne se dérobait que par respect, mademoiselle résolut de brusquer les choses. Le 20 juin, la cour alla prendre les divertissements de la belle saison à Versailles. Monsieur et madame s'en furent à leur château de Saint-Cloud. Mademoiselle suivit la cour. Lauzun s'était absenté, mais il avait soin de venir de temps à autre faire des apparitions chez la reine. Un soir, qu'il avait rencontré mademoiselle et qu'il la plaisantait au sujet du duc de Longueville, cette princesse lui dit vivement « Assurément, je me marierai, mais ce ne sera pas à lui. Je vous prie que je vous parle demain, car je suis déterminé, résolu de parler au roi et je voudrais bien que tout ceci fût fini devant le 1er juillet. » Il répondit « Je m'en vais demain à Paris et dimanche, sans faute, je serai ici et nous causerons de toutes choses. Je commence à avoir aussi envie que vous de voir tout ceci fini. » Le dimanche 29 juin, vers le soir, Lauzun n'était pas encore arrivé. On vint à la chambre de mademoiselle l'avertir que la reine l'attendait pour la promenade. Elle sortit en courant et croisa le comte d'Ayen, l'air très pressé aussi, qui lui dit en passant « Madame se meurt. Je cherche Monsieur Valot que le roi m'a commandé d'y mener. » En bas, la reine conta dans son carrosse l'histoire du verre d'eau de chicorée et que madame se croyait empoisonnée. On s'étonnait, on s'exclamait.
« Ah, quelle horreur !»
On se regardait et l'on ne savait que faire. Marie-Thérèse était descendue de voiture et se promenait en bateau, très paisiblement, sur le grand canal. Survint précipitamment un gentilhomme. Madame était à l'extrémité et faisait dire à la reine de ne point tarder si elle voulait le voir. On regagna le château où l'embarras recommença. La reine demandait à chaque instant « Que ferai-je? Que ferai-je ?» ne se décidait point et empêchait mademoiselle de partir sans elle. Enfin, le roi parut. Il prit la reine dans son carrosse avec mademoiselle et la comtesse de Soissons. Madame de Montespan et mademoiselle de la Vallière suivirent. Il était 11 heures quand la famille royale mit pied à terre à la porte du château de Saint-Cloud. Le spectacle qui l'attendait a été redit 100 fois. C'était sur un lit une pauvre petite figure échevelée, pathétique de souffrance et déjà tirée par l'approche de l'agonie. Sa chemise dénouée, laissant voir sa maigreur, elle était si pâle que, sans ses cris, on l'aurait cru expirer. Nous savons, par Madame de Lafayette, que les premiers sentiments de l'entourage avaient été la pitié et l'attendrissement, naturel en pareil cas, et redoublé ici par les douleurs effroyables et la douceur devant la mort de cet être jeune et charmant. L'état de Madame avait touché jusqu'à Monsieur, si dur pour elle, depuis qu'elle l'avait blessé par ses légèretés, de sorte qu'on n'entendait plus dans sa chambre que le bruit que font des personnes qui pleurent. L'entrée des souverains, avec leur suite, changea soudain les dispositions de cette chambre. Louis XIV, cependant, était sincèrement affligé. Mademoiselle, sincèrement émue, et le reste sentait qu'on perdrait avec Madame toute la joie, tout l'agrément et tous les plaisirs de la cour. Mais l'égoïsme et l'intrigue marchaient sur les talons des majestés. Tout en pleurant, chacun se mit à songer aux conséquences de cette mort. Qui hériterait du grand crédit de Madame? Qui monsieur allait-il épouser? Serait-ce mademoiselle? Comment s'en trouveraient les intérêts de tel ou tel? La mourante sentait autour d'elle comme un refroidissement. Elle voyait la tranquillité de tout le monde avec peine, rapporte mademoiselle, car je n'ai jamais rien vu de si pitoyable que l'état où elle était et celui où elle voyait les autres. On causait dans la chambre, on allait et venait, on riait aussi. Monsieur n'étant plus qu'étonné de ce qui lui arrivait, mademoiselle l'ayant engagé à faire appeler un prêtre, il lui dit: qui enverrons-nous chercher, qui eut un bon air à mettre dans la gazette? Monsieur est tout entier dans cette question. Après le départ du roi qui entraîna d'autres, la scène changea encore. Monsieur avait envoyé chercher Bossuet qui a raconté sa course à Saint-Cloud dans une lettre à l'un de ses frères. Il semble à le lire que sa présence chez Madame ait purifié les esprits des préoccupations terrestres, pour n'y souffrir d'autres pensées que celles de la grandeur, de la mort. En tout cas, Madame donna l'exemple en prouvant de toutes les manières, et jusqu'à son dernier soupir, qu'elle se savait en train d'accomplir la plus importante action de notre vie. Je la trouvais avec une pleine connaissance, dit Bossuet, parlant et faisant toute chose sans trouble, sans ostentation, sans effort et sans violence, mais si bien et si à propos, avec tant de courage et de piété, que j'en suis encore hors de moi. Dieu eut ainsi le dernier mot. À Versailles, la reine s'était mise à souper en rentrant. Mademoiselle apercevait Lauzun parmi les assistants.
En sortant de table, je lui dis: voici ce qui nous déconcerte. Il me dit:
beaucoup.
Et j'ai peur que ceci ne rompe tous nos projets. Je lui dis: ah non, quoi qu'il puisse arriver.
Elle ne put dormir de la nuit. Comment se débarrasser de monsieur si le roi voulait ce mariage? à 6 heures du matin, on vint de Saint-Cloud annoncer la mort de madame. À cette nouvelle,
le roi,
continue mademoiselle,
résolu de prendre médecine.
Et cette princesse, survenant avec la reine, le trouva en robe de chambre, qui pleurait madame de bon cœur et s'attendrissait sur lui-même. Il dit à mademoiselle,
« Venez me voir prendre médecine, afin de ne plus faire de façon et de faire comme moi. »
Après avoir bu, il alla se recoucher et la matinée se passa autour de son lit à parler de la morte. Dans l'après-midi, le roi s'habilla et vint causer des funérailles avec mademoiselle, la grande autorité de la cour, en matière d'étiquette. Dès que tout fut réglé, il lui dit la parole qu'elle attendait et qu'elle redoutait.
« Ma cousine, voilà une place vacante. La voulez-vous remplir ?»«
Je devins pâle comme la mort. » Et je lui dis, « Vous êtes le maître, je n'aurai jamais de volonté que la vôtre. » Il me pressa, je lui dis, « Je n'ai rien à dire que cela. »
« Mais y avez-vous de l'aversion ?»«
Je ne dis rien, il me dit,
« J'y travaillerai et je vous en rendrai compte. »
Dans les salons, la foule remariait monsieur tout haut. On disait
« À qui ?»
Et l'on regardait mademoiselle. Lauzun prit la chose en homme d'esprit, sans s'attarder à d'inutiles regrets, ni feindre un désespoir amoureux qui était fort loin de lui. Ce fut d'un air très dégagé et très gai, trop même au gré de mademoiselle, qu'il la félicita et qu'il refusa d'écouter ses protestations, que
cela ne se ferait point.
Le roi, lui disait-il,
veut que vous épousiez monsieur. Il lui faut obéir.
Il l'objurguait de ne pas hésiter et lui dépeignit les joies, des grandeurs et le bonheur d'être toujours en fête. Avec monsieur, elle répondait,
songez que j'ai plus de 15 ans et vous me proposez des choses propres aux enfants.
De tous les honneurs attachés au rang de belle-sœur du roi, un seul la touchait. C'était que l'on avait une bonne place dans le carrosse royal au lieu d'être toujours sur le strapontin, et elle représentait à Lauzun que la bonne place
ne durerait pas.
Il faudrait la rendre aux enfants du roi dès qu'il serait grand. Il répliquait à tout ce qu'il fallait obéir. Une fois, il ajouta,
il faut oublier le passé. Pour moi, je ne sais plus rien de ce que vous m'avez conté. Depuis quelque temps, j'ai tout oublié.
Une autre fois, il laissa voir qu'il n'ignorait pas ce qu'il perdrait. Elle venait de répéter,
« Ah, cela ne se fera point. »
« Ah si, »
repartit Lauzun.
« Et j'en serai bien aise, car je préfère votre grandeur à ma joie et ma fortune. Je vous suis trop obligé pour avoir d'autres sentiments. »
« Il ne m'en avait jamais tant dit. »
Fait remarquer mademoiselle. Après ces entretiens, elle allait s'enfermer pour pleurer. L'idée d'épouser monsieur lui était maintenant odieuse, pour d'autres raisons encore que sa passion. Non pas qu'elle le soupçonnât d'avoir empoisonné sa femme, mademoiselle l'en croyait incapable, mais elle ne pouvait se faire à l'idée des favoris de monsieur et de leur toute puissance. dans la maison, l'un d'eux, Monsieur de Beuvron, l'avait confirmé dans ses répugnances, en venant insolemment et maladroitement l'assurer de sa protection et de celle du chevalier de Lorraine. Il lui avait dit en propres termes
« J'aurai plus d'avantages que ce fût vous qu'une de ces princesses d'Allemagne qui n'aurait pas un sou de bien, qui fera de la dépense. » Et vous, vous en avez beaucoup. Ce que le roi donne, monsieur en pourra faire. Des libéralités. Ainsi, nous y trouverons bien mieux notre compte. »
Adressé à une princesse, aimant autant son argent, ce discours n'était pas habile. La suite le fut encore moins.
« Quand nous aurons fait votre mariage, vous nous en aurez l'obligation, car vous savez bien que nous le pouvons. »
Mademoiselle le laissa dire et conta la scène au roi.
« Il vous a parlé comme un sot !»
fit Louis XIV, avec son bon sens ordinaire. Elle ne pouvait pas se résigner, et Lauzun tremblait qu'on ne l'en rendît responsable. Il vint une dernière fois trouver mademoiselle chez la reine et lui dit
« Je viens vous supplier très humblement de ne me plus parler. Je suis assez malheureux pour déplaire à monsieur. Il croirait que toutes les difficultés que vous pourriez faire viendraient de moi. Ainsi, je n'aurai plus l'honneur de parler à vous. Ne m'appelez point en lieu du monde. Car je ne répondrai pas. Ne m'écrivez ni m'envoyez. Je suis au désespoir d'être obligé d'en user ainsi, mais c'est une chose que je dois faire pour l'amour de vous. »
Elle ergotait, essayait de le retenir. Il lui répéta son refrain accoutumé, qu'il fallait obéir, et prit froidement congé, tandis qu'elle s'écriait
« Mais ne vous en allez pas, sinon je ne vous parlerai plus. »
À partir de ce jour, Lauzun l'évita soigneusement. Un soir que cette princesse lui avait commandé de renouer son ruban de manchette, il répondit
qu'il n'était pas assez adroit
et céda la place à mademoiselle de la Vallière. Il évitait même de regarder du côté de mademoiselle. Louis XIV avait trouvé son frère, tout endoctriné sur les avantages d'épouser beaucoup de millions. Monsieur demandait seulement un délai, ne voulant pas, avec les bruits qui couraient, paraître trop pressé de remplacer la morte. Mademoiselle étudiait de son côté à traîner les choses en longueur. De l'un à l'autre, le mois de septembre s'avançait, lorsque le roi dit à sa cousine, en présence de la reine,
« Mon frère m'a parlé. Il souhaite qu'au cas où vous n'eussiez point d'enfant, vous donnerez tout votre bien à sa fille. Il dit qu'il souhaite fort de n'en point avoir, pourvu qu'il soit sûr que ma fille épouse son fils. Je lui ai dit que je lui conseillais d'avoir des enfants, parce que ce n'était pas une chose sûre. »
Monsieur avait 13 ans de moins que mademoiselle, et celle-ci savait ce que « parler » veut dire. Elle se mit néanmoins à rire.
« Jamais, en se mariant, on a dit que l'on souhaite de n'avoir point d'enfant. Je ne sais pas si ce propos est obligeant. Qu'en dit votre majesté ?»
Le roi riait aussi.
« Il a dit bien d'autres choses sur ce chapitre, plus ridicule, que je lui ai conseillé de ne pas dire. » pour son honneur. »
La plaisanterie se prolongea, malgré la reine qui s'écriait.
« Cela est bien vilain !»
Enfin, mademoiselle conclut d'un ton sérieux.
« Quoique je ne sois pas jeune, je ne suis pas d'un âge à ne pouvoir avoir d'enfant. À une créature fort inférieure, on fait de ces propositions. Ainsi, votre majesté veut bien que je dise qu'elles ne me sont pas agréables. »
Le roi reprit aussi son sérieux pour prévenir sa cousine qu'il ne donnerait jamais à son frère ni gouvernement ni rien de ce qui procure la puissance, mais seulement des pierreries, meubles et autres jouets. C'était encore l'une des leçons de la Fronde, et Louis XIV insiste sur cette résolution dans ses mémoires. Mademoiselle le remercia ironiquement de tout faire pour lui rendre monsieur souhaitable, et, voyant aux questions du roi qu'il avait eu vent de quelque chose, elle dépeignit à mots couverts l'avenir qu'elle entrevoyait. La reine demandait ce que cela voulait dire. Louis XIV se taisait.
« J'ose espérer, »
fit mademoiselle en terminant,
« que je ferai ce que je voudrai et que le roi ne me contraindra pas. »
« Non, sûrement, »
répliqua-t-il.
« Je vous laisserai faire tout ce que vous voulez et je ne contraindrai jamais personne. »
Il ajouta un instant après,
« Allons dîner !»
Et l'on se sépara. Des semaines s'écoulèrent encore. Les favoris de monsieur s'étaient refroidis sur une alliance, ou à la réflexion, l'humeur de mademoiselle leur faisait craindre de ne pas trouver leur compte. Les choses se passèrent avec beaucoup de douceur. Quand cette princesse, un soir d'octobre, supplia le roi qu'il n'en fût plus question, Louis XIV parut indifférent. Monsieur se fâcha un instant et n'y pensa plus. La seule Marie-Thérèse, qui ne s'intéressait ni à son beau-frère, ni à sa cousine,
fut au désespoir,
raconte mademoiselle.
Car elle veut que l'on se marie et que l'on ait des enfants.
Mais nul ne s'occupait des désespoirs de Marie-Thérèse. Lauzun approuva mademoiselle et cessa de la fuir. Ce fut tout. Pour un grand ambitieux, il n'était pas assez beau joueur avec la fortune. Il avait trop peur d'être dupe. Il avait repris son attitude revêche et refusait toujours d'écouter le nom de celui que mademoiselle avait choisi. Certains jeudi soir qu'elle l'avait menacé de
souffler contre le miroir et de l'écrire.
Minuit sonna pendant leur contestation.
« Il n'y a plus moyen de le dire, »
fit mademoiselle.
« Car il serait vendredi !»
Elle croyait au vendredi. Le lendemain, elle prit une feuille de papier, écrivit tout en haut.
« C'est vous !»
et cacheta.
« Ce jour-là, je ne le vis qu'en allant souper. Je lui dis, j'ai le nom dans ma poche, mais je ne veux pas vous le donner vendredi. Il me dit,
« Donnez-le-moi, je vous promets que je le mettrai sous le chevet de mon lit et que je ne l'ouvrirai pas que minuit ne soit sonné. »
Elle n'avait pas confiance et lui ne songeait même pas à sacrifier une course arrangée pour le samedi.
« Eh bien, j'attendrai à dimanche.
dit mademoiselle, avec une patience inconcevable. Et sa seule vengeance fut de se faire prier le dimanche, avant de donner son papier. Ils étaient seuls au coin du feu chez la reine. Je tirai cette feuille où il n'y avait qu'un mot qui en disait beaucoup. Je la lui montrai, je la remettais dans ma poche, je la mettais dans mon manchon. Il me pressait fort de la lui donner en disant que le cœur lui battait. Avant que de lui donner, je lui dis « Vous répondrez dans la même feuille. » Le soir, alors qu'elle n'osait lever les yeux sur lui, il lui déclara qu'elle se moquait de lui, qu'il n'était pas assez sot pour y donner. Et ce fut aussi le thème de la lettre qu'il lui remit. En même temps, il commençait à être ému de sentir, à portée de sa main, une élévation aussi prodigieuse. Et il ne pouvait toujours se défendre de répondre sérieusement à mademoiselle. Elle lui parlait du bonheur qui les attendait et de ses projets pour faire de lui le plus grand seigneur du royaume. Il lui déconseillait toujours de s'abaisser de la sorte, mais un jour, il ajouta « Quand on se marie, il faut connaître l'humeur des gens. Je vous veux dire la mienne. » Il se peignit alors au naturel, bizarre et insociable, et ne pouvant vivre que dans le sillage du roi. « Ainsi, je serais un mari que l'on ne verrait guère, et quand on le verrait, qui ne serait pas divertissant. » Ensuite, il broda, affirmant qu'il était corrigé des femmes et qu'il n'avait aucune ambition. « Quand on me voudrait donner un gouvernement, je n'en voudrais point. Après tout cela, me voudriez-vous ? Oui, je vous veux. Ne trouvez-vous rien à ma personne qui vous dégoûte ?» Cette question avait sa raison d'être. Lauzun était malpropre, mais elle indigna mademoiselle. « Quand vous avez peur de ne pas plaire, c'est que vous vous moquez des gens. Vous n'avez que trop plu dans votre vie, mais moi, ne trouvez-vous rien en ma figure de déplaisant ? Je crois n'avoir nul défaut extérieur que les dents, que... je n'ai pas belle, mais c'est un défaut de race, et cette race, on peut faire passer quelques-uns. Assurément, fit-il, et elle n'en put tirer un compliment. Sur ces entrefaites, la cour rentra au Louvre et aux Tuileries, mademoiselle au Luxembourg. Après maintes hésitations, Lauzun consentit qu'elle écrivit une lettre où elle suppliait le roi d'oublier tout ce qu'il avait toujours entendu dire contre les mariages inégaux et de lui permettre d'être heureuse. L'opinion des contemporains fut que Lauzun avait pris les devants, le chargé d'affaires d'Espagne, écrivait de Paris le 21 décembre.
« Il est certain, à ce que l'on dit, qu'il en est venu là avec l'autorisation et la permission du roi. »
La voix publique, dont les nouvellistes du temps nous ont conservé l'écho, ajoutait que Madame de Montespan avait été très mêlée à toute cette affaire. Version que confirment deux de ses lettres à Lauzun, et qu'elle avait enlevé le consentement du roi en lui disant
« Hé, sire, laissez-le faire. Il a assez de mérite pour cela. »
Il y avait entre elle et Lauzun quelque chose que l'on ne sait pas et qui les rapprochait toujours, quelque mal qu'ils se fussent fait. Le roi avait répondu à mademoiselle, sans dire ni oui ni non,
que sa lettre l'avait étonné et qu'il lui demandait d'y mieux penser. Il lui redonna le même avis 3 jours après, dans un tête-à-tête qui eut lieu entre 2 portes et à 2 heures du matin.
« Je ne vous le conseille pas. Je ne vous le défends point. Mais je vous prie d'y songer. »
Il ajouta que l'on commençait à en parler et que bien des gens n'aimaient pas Monsieur de Lauzun.
« Prenez là-dessus vos mesures. »
Ils firent leur profit de l'avertissement. Le lundi 15 décembre 1670, dans l'après-midi, les ducs de Montausier et de Créqui, le maréchal d'Albret et le marquis de Guitry se présentèrent ensemble devant Louis XIV et lui demandèrent la main de mademoiselle pour Monsieur de Lauzun.
Comme député, pour ainsi dire, de la noblesse de France, qui recevrait à grand honneur et à grande grâce que le roi voulut permettre qu'un simple gentilhomme qualifié épousât une princesse de ce rang.
Cette démarche était une idée de Lauzun. Elle réussit auprès du roi et, après qu'il eut été remercié au nom de toute la noblesse de son royaume, mademoiselle, qui faisait semblant d'écouter un sermon derrière la reine, fut avertie que Monsieur de Montausier la demandait. Il lui conta le bon accueil qu'ils avaient reçu et finit en ces termes.
« Voilà une affaire faite, mais je vous conseille de la laisser le moins traîner que vous pourrez, et si vous me croyez, vous vous marierez cette nuit. »
« Je trouvais qu'il avait raison, »
ajoute mademoiselle.
Et je priais de le dire à Monsieur de Lauzun s'il le voyait devant moi. »